Donc vous écoutez bien les promesses de l'aube, vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique ce 7 septembre et j'ai le plaisir d'accueillir en studio, elles sont toutes les deux là, elles ont gravi les 100 marches du studio, c'est Julie Vanderkar, coordinatrice du Festival Alimentaire et Alessandra Coppola, réalisatrice du film La Restanza. Merci beaucoup à vous deux d'être venues, bienvenue.
Merci, bonjour.
Voilà, et donc si je vous ai invité, hein, c'est comme chaque année, plus ou moins, vous venez présenter le festival et certains des films qui sont à l'affiche de ce festival Alimentaire qui, depuis 14 ans, eh bien, sensibilise un peu les citoyens et citoyennes aux enjeux de l'agriculture paysanne, mais surtout ne reste pas dans des constats négatifs et défaitistes, mais montre en général des pistes d'action et des expériences quand même qui donnent plutôt de l'espoir. Et donc cette année, c'est comme je le disais, la 14e édition qui a lieu tant à Bruxelles qu'en Wallonie. Et cette année, ben on sait que la situation est un peu dramatique aussi, que ce soit ici en Europe vu l'augmentation des prix, mais aussi dans d'autres pays du monde, notamment en Afrique, qui ont vu les résultats de leur dépendance aux importations, notamment d'Ukraine ou de Russie. Et donc, comment vous traitez cette question alimentaire après 14 ans, ou bien malgré 14 ans comment vous renouvelez? Est-ce que malheureusement, l'actualité vous donne toujours et encore des raisons d'appuyer sur la question alimentaire et de tirer la sonnette d'alarme, si je puis dire, sur l'importance de prendre cette question alimentaire à bras le corps et de façon un peu aussi systémique, sans rester ni dans son pré ici belgo-belge, mais sans non plus penser que tout se réglera juste par le Sud et donc en faisant interagir les multiples acteurs et actrices.
Oui, tu as bien résumé, effectivement, les enjeux de l'agriculture, de la crise alimentaire qu'on traverse aujourd'hui, en Belgique, mais partout dans le monde, fait que la question est de plus en plus cruciale et grave et nous touche tous. Faut savoir qu'une personne sur neuf souffre encore de la faim dans le monde. C'est surtout des agriculteurs, des éleveurs, leurs familles. Mais que effectivement, depuis la guerre en Ukraine, ça repose en fait parce que le problème date d'avant, la fragilité du système alimentaire depuis que le festival est né. Enfin, c'est là-dessus qu'on appuie. On dénonce la fragilité des systèmes alimentaires et la guerre en Ukraine. Maintenant, on en parle beaucoup depuis les impacts de la guerre partout dans le monde, parce qu'on sait bien que l'Ukraine est un grenier, est le grenier du monde. Mais en fait, ça pointe la fragilité des systèmes alimentaires qui datent d'avant. D'avant la guerre en Ukraine. Et donc, comment on en parle dans le cadre du festival, effectivement, pour pointer la guerre en Ukraine, quelles solutions face à la crise alimentaire? On va en parler à l'occasion du festival alimentaire. C'est une collaboration avec le festival Nourrir Bruxelles, qui est un autre festival frère, qui, eux, ils ont plus un ancrage local, social. Nous, on est plus dans une dimension de solidarité nord-sud avec une dimension internationale. Mais on organise une grande rencontre sur cette question et surtout, quelles solutions face à la crise alimentaire? On en parle avec la FUGEA, avec Oxfam, avec FIAN, avec Laurence Roudard de l'ULB et avec notre invitée d'honneur qui nous vient du Sénégal, Kadi Ndioye. Et donc c'est un petit peu dans l'idée de contrecarrer les discours dominants. C'est vrai qu'on nous rabâche les oreilles en disant qu'il faut produire plus, or la solution n'est pas là. Il y a assez de nourriture dans le monde pour nourrir la population mondiale. La solution, c'est plutôt... Il y a d'autres solutions, notamment l'agroécologie, d'autres manières, d'autres pratiques de produire, de consommer. Donc, ce sera l'objet d'une grande rencontre qui se déroulera le jeudi 15 septembre au Cinéma Galerie.
Et le 15 septembre, c'est justement, vous en parliez, le lancement de Nourrir Bruxelles, donc du festival Nourrir Bruxelles, qui aura lieu aussi pendant 15 jours.
10 jours, oui.
Et je vous invite aussi... par ailleurs à c'est le site, c'est nourrir-humanité.org. Mais donc, vous évoquez la fragilité du système alimentaire. Comment expliquer aussi, parce que les ONG, les associations, que ce soit FIAN, que ce soit SOS Faim, que ce soit d'autres, que ce soit même Olivier de Scutter quand il était
parrain, oui.
Responsable de ces questions-là, je ne sais plus le titre.
Rapporteur,
voilà. Il alertait sur la nécessité de changer ce système. Il y a eu plusieurs fois des années mondiales de l'agriculture familiale, je pensais. Comment on explique qu'on va encore plus dans le mur et que justement, on évoquait la crise en Ukraine, la solution, alors que avec certaines politiques, on semblait quand même petitement se diriger vers des bons petits pas, enfin des petits pas dans la bonne direction. Là, avec la guerre en Ukraine, on revient sur produire plus, l'agriculture.
Bon, il y a beaucoup de raisons. Je ne suis pas spécialiste de ces questions-là. On les traite dans le cadre du festival, mais je suis plus programmatrice que spécialiste de ces enjeux-là. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de freins, beaucoup d'obstacles à la transition agroécologique. Il y a le poids des lobbies, bien sûr, de l'agro-industrie qui est important. Ça se joue surtout au niveau des politiques. Il y a un grand débat sur la politique agricole commune, la PAC, qui malheureusement, Malgré des coalitions d'associations, d'ONG, etc., comme la coalition contre la faim, la coalition contre le réchauffement climatique, etc., mais il y a effectivement encore des politiques, les règles commerciales ne changent pas. Il y a une concurrence déloyale entre le Nord et le Sud. Effectivement, la PAC est encore en faveur des grosses fermes. Et pourtant, l'agriculture familiale est la solution. Mais il y a des règles du jeu de commerce international qui sont encore à modifier et à réglementer ça ne se change pas du jour au lendemain. Mais voilà, d'où l'importance de faire du plaidoyer, de faire de la sensibilisation, mais aussi de faire du plaidoyer pour changer et au niveau individuel, mais aussi au niveau politique, pour que les règles de commerce internationales changent.
Et justement, tout à l'heure, j'évoquais le fait que vous essayiez aussi de mettre en avant les alternatives et les choses qui fonctionnent bien. Est-ce que c'était justement j'imagine que ça a été le focus au moment de choisir les films, et notamment le film d'Alessandra Coppola ici présente est un film qui montre aussi une résistance et une volonté. Comment ça se passe, ce choix de film
Il y a d'abord une présélection, parce qu'on visionne beaucoup de films. J'en présélectionne une vingtaine que je soumets au comité de sélection. Et le comité de sélection est composé essentiellement de volontaires, donc de citoyens qui ont envie de s'investir pour SOS Faim et pour le festival alimentaire. Donc ça c'est, on a une dizaine et on sélectionne on en a sélectionné 8 cette année. Et effectivement, selon certains critères, il y a notamment, on accorde beaucoup d'importance à effectivement sélectionner et programmer des films qui non seulement questionnent ces enjeux-là, mais aussi proposent des solutions et apportent des perspectives. Et c'est ça qu'on aimait beaucoup dans le cadre de la Restanza, parce que c'est un film effectivement qui donne du courage, qui donne la niaque, parce que... Donc Alessandra expliquera mieux que moi le film, mais ce qu'on avait beaucoup aimé, c'est sortir de la vision romantique de jeunes qui décident de monter une coopérative et de lutter contre l'exode, de rester dans les campagnes et de faire vivre nos campagnes. Donc c'est tous les enjeux effectivement de faire vivre nos campagnes, soulève la question de la jeunesse, comment la jeunesse résiste, la jeunesse sans emploi mais qui décide de créer leur emploi. la question des dettes. Donc voilà, on est vraiment au cœur de ces enjeux-là, mais de manière immersive, et on est vraiment avec les protagonistes, et c'est ça qu'on aimait beaucoup. On sent leur combat, mais on sent aussi leur galère, et c'est ça qu'on a beaucoup apprécié, c'est que c'est pas lisse, et les personnages sont on est vraiment avec eux, et donc on voit toute leur trajectoire, leur résistance, leur lutte, leur galère, et c'est ça qu'on trouvait beau aussi, que c'était très réaliste, et très touchant aussi. Mais je laisse Alessandra.
Ben, Alessandra, justement, effectivement, comme l'évoque Julie, la Restanza, c'est l'histoire non pas de jeunes qui vont à la campagne, c'est pas des néo-ruraux, mais c'est des jeunes trentenaires qui décident de rester. Et comment vous est venue l'idée de faire ce film? Comment vous êtes arrivé à rencontrer ces gens? Ou bien est-ce que vous en faites, est-ce que vous en êtes proche? Est-ce que c'est de là que vous venez?
Oui, merci Julie, merci Zoé. Alors, la genèse du film est un peu compliquée dans le sens qu'il y a eu une série de coïncidences vraiment assez incroyables. C'est comme si la vie m'avait poussé, m'avait pris, m'avait dit tiens, va là-bas. Et puis regarde, tu dois faire le film. j'ai l'impression d'avoir été téléguidée. Mais à part ça, non. Je viens de la région, mais pas vraiment de là-bas. J'ai grandi dans une ville à 300 km plus au nord que le village où le film se passe. Et j'ai connu ce groupe-là par une coïncidence. Simplement, je me trouvais là-bas et puis c'était le moment que Will faisait ce nouvel an agricole qui est le 31 août et qui s'appelle la Nuit Verte. Mm-hmm. Et de là, j'étais assez interpellée par leur démarche, en fait. Parce que déjà, ce qui m'avait assez choquée presque, c'était que ces gens-là avaient une certitude seulement le désir de rester. Le désir de rester dans leur terre. Et ça me choquait parce que cette terre, c'est une terre d'immigration depuis au moins 3 générations. Et plus, en fait. Et moi-même, je suis partie de là-bas. Et je suis partie parce que je ne voyais aucune possibilité de sortir d'un héritage très fataliste et très... oui, qui bloquait n'importe quelle possibilité de s'épanouir en dehors de certains mécanismes. Et du coup, déjà ça m'a interrogé, ce désir de rester. Je me suis approchée à eux, j'ai voulu savoir plus. Et en fait, ils n'en savaient pas plus ou non plus. Ils savaient juste que le désir de rester, ça ouvrait beaucoup de questions. Ça ouvrait beaucoup de questions sur le plan économique d'abord, parce que bah, voilà, pour rester, ils font des conditions, et si les gens ont toujours migré de là-bas, c'est surtout parce que ils n'arrivaient pas à y vivre. Et ça ouvrait beaucoup de questions sur le plan social, parce que cette migration avait aussi décousu complètement le tissu social. Et aussi, au moment qu'ils se sont dit « Ok, c'est quoi nos ressources pour rester ?» Eh bien, ils se sont regardés autour et la réponse était la terre. Mais eux, ils n'avaient pas de terre. Et du coup, ils ont commencé à demander aux villageois, qui étaient surtout des gens d'un certain âge, pour lesquels la terre était plutôt un fardeau qu'une ressource, mm-hmm. parce qu'ils n'arrivaient pas à la cultiver, ça avait un coût, les fils et les petits-fils étaient partis. Et donc, ils ont demandé à ces gens âgés s'ils voulaient bien mettre ces terres en commun sous le chapeau d'une association qu'ils ont créée, et, parce qu'eux, ils voulaient les remettre à production. Donc ces personnes-là ont dit OK, mais après le problème c'était que ces terres-là, soit à cause de la monoculture, soit à cause de l'abandon, n'étaient pas des terres prêtes à produire. Donc en fait, pendant un certain temps, ils ont dû vraiment faire tout un processus pour les rendre productives, en fait, pour les remettre dans des conditions de vie, parce que c'était de la terre morte, en fait, depuis longtemps. Et voilà, donc leur projet part de là, et ça a commencé à impliquer des questions politiques aussi. Politiques par rapport à ce que même toi, Julie, tu mentionnais, par rapport aux politiques européennes, aux nationaux, et voilà, et ça avait un impact clairement sur leurs idées, leur manière de vouloir avancer. Politique par rapport aussi à la situation des migrants qui arrivent là-bas. Il y a beaucoup de migrants qui arrivent directement dans cette région. Et moi, je me rendais compte que les mêmes questions qu'eux, ils avaient, qu'ils avaient ouvert avec ce désir de rester, c'était les questions qui me tracassaient dans ma vie quotidienne, tout en étant à Bruxelles, dans une ville, dans le nord de l'Europe, donc dans des conditions. Et donc, j'ai constaté aussi que ces questions-là, c'était important un peu pour tous, parce qu'en regardant au futur, on ne pouvait pas faire ça, en fait. Et du coup, je me suis dit, OK, on va regarder comment ce projet peut avancer. On va regarder qu'est-ce qui se passe. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Et de là, vivre. Et pendant 5 ans, je les ai suivis tout en ne sachant pas où ça allait. Ça pouvait aller nulle part. Mon film pouvait être rien. C'était un inconnu complet. Mais voilà, le désir n'est jamais... était toujours là, en fait.
Et justement, un passage aussi, ce conflit, entre guillemets, cette différence de perception des générations, vous le montrez aussi très bien dans le film, notamment cette scène où cette dame plus âgée dit qu'elle déteste la terre, que c'est horrible de cultiver, que c'est dur, qu'il faut se lever tôt, se coucher tard. Et donc, c'est aussi... je trouvais intéressant justement de montrer que c'est pas juste idyllique et c'est merveilleux, on retourne cultiver les champs et c'est dur. Et vous montrez aussi justement le fait que, enfin, il y a un moment aussi dans le film où il y a c'est Salvini qui vient et donc. Cette mobilisation aussi des populations rurales, plutôt à droite ou plutôt à gauche, et donc cette opposition qu'il peut y avoir aussi dans ces régions où notamment une des personnes travaille aussi dans une association qui travaille avec les migrants.
Oui, c'est ça aussi. Oui.
Donc tout interconnecté aussi, et c'est un peu justement ce que montre aussi le festival en appréhendant, c'est qu'on peut pas dissocier la crise climatique des enjeux migratoires, des enjeux de l'alimentation et de l'agriculture, et donc que tout le monde a des liens aussi, et que comme vous disiez, ben vous ici à Bruxelles, il y a quelque chose qui peut relier aussi à ce qui se passe.
Et c'est intéressant parce que tu mentionnes la question de la dame plus âgée. Et ça, c'est une autre question très importante. C'est la question du travail. Comment on peut concevoir le travail différemment? Parce que cette dame, elle a vécu l'agriculture d'une certaine manière. OK, cette manière-là, on la connaît. Mais est-ce qu'il y a une autre? Est-ce que c'est possible cultiver la terre d'une manière différente? Et sûrement, aujourd'hui, par rapport à il y a 50 ans, les moyens, la technologie nous aide dans ce sens-là. Nous aide à, si on utilise les bonnes technologies, si on les utilise bien, si on les met au service de certaines valeurs, peuvent être un support plutôt que... Et l'autre aspect autour de des conditions de travail, c'est que cette génération-là de la dame, elle s'appelle Gioconda. Je ne le dis pas dans le film, mais j'adore. Et Gioconda était une esclave, comme, donc elle a été asservie à un patron et voilà, elle avait sa paye jour par jour. Mais comme il dit Rocco, notre personnage du film, la différence c'est si je travaille 3 heures de plus, mais je suis en train de travailler pour moi, pas pour un patron. Mm-hmm. Et du coup, c'est clair que la perspective est complètement différente. Mm-hmm.
Et ça pose aussi la question des communs et de comment on renoue d'autres liens aussi avec la Terre. Et c'est un peu aussi le sujet d'autres films, je pense, et notamment peut-être la façon dont vous ouvrez aussi le festival avec le film autour de la pensée de Philippe Descola aussi, qui est et avec en présence, je pense, de Vinciane Desprez. Je sais jamais si c'est Desprez ou Desprez. Enfin bref, on voit. Et donc, ça nécessite justement de pouvoir se sortir aussi du cadre habituel qu'on avait et d'imaginer d'autres façons de vivre, d'être et de faire commun et d'être en commun.
Oui, tout à fait. Les enjeux de l'alimentation, de l'agriculture, c'est pas uniquement stricto sensu sur ces enjeux-là. Parce qu'effectivement, comme tu disais, ça touche à l'habitat, ça touche au commun, à la manière d'habiter le monde, en quelque sorte. Effectivement, le film d'ouverture, mais qui est programmé à différents endroits du festival, s'appelle Composer le monde d'Elisa Lévy. Et sur la question sur la pensée de Philippe Descola, qui re-questionne la notion de nature. Donc effectivement, tous ces enjeux-là sont interconnectés. On parle aussi de la question de la pêche, de la surpasse, de l'exploitation de ressources halieutiques. On parlera aussi des questions des semences aussi, et du rapport des femmes à la terre. On parlera aussi des questions de décolonisation, parce que là, ça fait partie. Voilà, c'est aussi une question qui nous préoccupe beaucoup en tant qu'ONG. On a eu un gros coup de cœur pour le film White Cube de Renzo Martens, qui est un film assez interpellant, qui suscite pas mal de débats sur une démarche d'un artiste qui invite les travailleurs de plantation en RDC de se réapproprier leurs terres qui étaient volées par le géant de l'agroforesterie Unilever. Et donc, par toute une démarche artistique, il invite les paysans congolais à se réapproprier leurs terres, mais par une démarche assez particulière et singulière. Et donc ça pose beaucoup de questions sur la gentrification, sur les rapports de force, sur est-ce qu'on gagne mieux sa vie en tant que paysan ou en tant qu'artiste. Voilà, bon, voilà, tous ces enjeux-là sont voies croisées. Ça, c'est un film sur les luttes écologiques et sur le retour au pays, ce qui est intéressant aussi. Sur les questions des pesticides aussi, parce qu'on c'est le film Zut est un film qui sort dans le cadre du festival alimentaire en avant-première. On est très heureux de l'accueillir. C'est un film de François de Saint-Georges qui questionne là aussi, qui montre des gens en résistance, comme le film La Restanza. Mais ici, ce sont des personnes plus âgées. C'est aussi intéressant de voir que il y a des luttes paysannes, voilà, partout et dans tout milieu. Et ici, ce sont des personnes plus âgées qui résistent contre l'usage des pesticides, la consommation des pesticides. Donc, Zut comme zone urgente à transformer. Et donc, ça se passe en Belgique. Et là aussi, c'est un film qui donne beaucoup de qui montre que les citoyens, quand les citoyens prennent le pouvoir et rentrent en résistance, en lutte. Ça fait écho à la campagne de sensibilisation et de plaidoyer qu'on va bientôt lancer à l'occasion du festival pour dénoncer la question de l'exportation de pesticides qui sont pourtant interdits ici, en Belgique et en Union européenne, et qui pourtant sont exportés dans les pays du Sud. Oui. Donc c'est un cynisme sans nom de l'Union européenne.
Donc je pense que François de Saint-Georges justement sera ici même mardi prochain pour parler du film et aussi plus particulièrement de cette campagne effectivement où on se retrouve via les traités commerciaux à interdire notamment c'est un des enjeux pour le traité entre l'Union européenne et le Mercosur, c'est les agriculteurs ici disent oui, nous on nous interdit de produire avec tel ou tel pesticides, mais ce qu'on importe de là-bas, souvent, ils ont été produits dans ces conditions-là. Quoi.
Oui.
Mais donc, on en saura beaucoup plus la semaine prochaine sur cette campagne. Je voulais aussi revenir... tout à l'heure, vous évoquiez aussi la question de la dette et donc du fait que les agriculteurs et notamment les jeunes agriculteurs, ils doivent s'endetter. C'est un des éléments aussi qui est abordé dans le film La Restane. Ça aussi, c'est que à un moment, ils doivent contracter des dettes pour pouvoir continuer leur projet. Ils n'ont pas d'autres revenus. Et donc, comment ça se passe, comment ils ont vécu aussi ça, est-ce que ça a entravé leur projet, est-ce que justement ça...
Oui, donc en fait, les personnes qui commencent, qui se mettent ensemble pour commencer ce projet, ne possèdent rien. Déjà, je me rattache à ce que tu disais tout à l'heure, même si c'est des gens qui habitaient déjà un petit village entouré des campagnes, mais c'était pas du tout des paysans. Et même leurs parents n'étaient pas, oui, dans le cas, quelques-uns oui, parce que toutes les familles avaient des terres, mais, disons que la génération de leurs parents était plutôt des employés, surtout au bureau de poste ou à l'école. Mais voilà, donc c'était pas des paysans. Il y a Rocco qui était ouvrier, Pucci qui était boucher, Donato qui était à l'université à Bologne en même temps que moi. J'ai fait on a fait les mêmes études, mais on se connaissait pas. Était documentariste. L'autre qui est journaliste. Donc en fait, c'est des gens qui au moment qui ont repris la terre en main ont dû tout apprendre. Clairement, avec un lien très fort avec les générations précédentes pour l'enseignement, pour vraiment un passage d'informations et de savoir. Mais en même temps, ils possèdent pas de terre. Et du coup, pour ce qui concerne la terre, on fait un contrat de commoda gratuit avec les gens. Mais pour avancer dans le projet, pour construire, je ne veux pas tout dire, ils avaient besoin d'argent. Et du coup, ils ont dû s'endetter. Oui, oui, c'est ça. Mais ça a été dû aussi à une autre prise de position très radicale, je trouve, qui était celle de ne pas accepter de l'argent public, de l'argent des institutions. Ce n'était pas une prise de position par principe, mais c'était une prise de position qui a été choisie suite à les conditions de l'argent public, notamment aussi de la PAC, qui étaient des conditions qui amenaient un petit chantage, et puis surtout une prise de position pour dire nous adhérons pas à ce type de manière, à ce type d'approche à l'agriculture. Et donc, si nous voulons être cohérents, on ne prend pas l'argent public. En n'ayant pas d'argent propre, en n'ayant pas d'argent public, en n'ayant pas d'argent commun, s'endetter, c'était la seule possibilité qui restait. Heureusement, Banque Éthique, plus que d'autres banques, a adhéré au projet. Et du coup, les conditions n'ont pas été si horribles comme ça peut être dans d'autres situations de banque commune, disons. Mais voilà, c'est toujours une dette, c'est toujours une épée, oui, c'est ça, sur le dos, à porter jusqu'au dernier jour. Et ils ont pu le faire parce que trois personnes parmi eux avaient un travail sous contrat. Mm-hmm. Parce que la banque exigeait des garanties. Et donc, voilà, ils ont dû faire le double travail pendant... Ils le font encore, en fait, d'ailleurs. Ils ne sont pas encore sortis de la dette. Donc, la volonté, la détermination pour continuer un projet pareil, ce n'est pas rien. Et ça me fait penser à quelque chose, si j'ai encore quelques minutes. Donc, moi, j'ai présenté le film à différents endroits en Italie cet été. Des fois, dans des festivals plutôt cinéma et des fois dans des festivals plutôt liés à des projets similaires. Et j'ai remarqué quelque chose de très intéressant. L'Italie est un pays très, très, très varié. De région à région, de territoire à territoire, les conditions géographiques, politiques, sociales, ça change beaucoup. J'ai rencontré des réalités qui ont le même type de valeurs, le même type de démarche, d'idées, mais qui, en ayant des conditions différentes, ont, disons, décliné le projet différemment. Et par exemple, en particulier près de Rome, dans des campagnes, j'ai rencontré une association qui ont quelque chose de très intéressant, où ils ont une caisse commune qui vient d'une taxe qui restait encore là comme caisse commune, qui n'est pas de la région, qui n'est pas de la commune, mais c'est quelque chose, une entité institutionnelle, mais du territoire, donc qui met ensemble quelques communes, et qui vient du Moyen-Âge. Et c'est une taxe que les paysans, les propriétaires terriens devaient payer. En fait, non, les propriétaires terriens donnaient aux paysans la possibilité de récolter ce qui tombait par terre pour eux. Mais quand ces terres ont été divisées et sont devenues propriété privée des paysans, ces paysans ont dû garder ce bien commun. Et donc, comme il n'y avait personne qui pouvait prendre ces fruits, ils ont dû donner à la communauté une taxe en argent. Et cette taxe existe encore. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là ? Ils ont dit, eh ben, on a une caisse commune, ça c'est du bien commun. Et je me rattache donc à ce discours des biens communs. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ils ont acheté des terres, ils ont mis ces terres à production, ils ont créé une grosse ferme, et voilà, ils sont en train de produire de manière organique, de manière éthiquement soutenable, mais aussi socialement juste, et pour donner à la communauté. Donc ça, je trouve que c'est assez extraordinaire. Ils ont un grand avantage par rapport aux protagonistes de mon film, parce qu'ils ont de l'argent. Donc il y a des possibilités, voilà, au niveau argent. Après, il faut les trouver. Il faut vraiment regarder, je pense, à où on vit et c'est quoi, faire vraiment un état des lieux. Et à partir, il n'y a pas un modèle exportable et applicable partout. Justement, je crois que les réponses politiques sont vraiment celles-là, sont celles où on fait une bonne analyse de l'état des lieux, un bon état des lieux de notre réalité qui nous entoure. Ça peut être à Bruxelles, ça peut être au sud du Portugal.
Et donc le festival alimentaire, c'est aussi des moments de rencontre justement avec des réalisateurs, des réalisatrices. Et donc je pense que vous avez deux moments, je pense, où vous allez être autour de thématiques particulières.
Oui, tout à fait. Exactement, toutes les projections sont suivies de débats. Ça, c'est un petit peu l'ADN du festival. À part quelques exceptions près, mais donc la Ressensa, elle est effectivement projetée au cinéma-galerie. Et là, exceptionnellement, effectivement, il n'y a pas de débat sur scène pour des raisons organisationnelles, parce que voilà, il y a deux films par soir. Mais Alessandra Coppola sera là pour discuter autour d'un verre. Donc ça se fait de manière plus informelle. Il est également projeté à Charleroi, au Quai 10. Et là, ça sera justement suivi d'une discussion sur les questions de commun avec Antoinette Dumont, notamment de la SAWB, qui traite d'économie des communs. Donc ça sera intéressant.
Donc n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus et discuter de ça, c'est jeudi 15 septembre à Charleroi. Mais il y a toute la programmation qui a lieu cette année, tout a lieu au Cinéma Galerie, c'est
oui,
ça hein?
Tout à fait. Mais ce qu'il y a de particulier cette année et ce qu'on aimerait renforcer à l'avenir, ce sont des décentralisations du festival aussi dans différents quartiers, parce qu'on a envie aussi d'aller vers d'autres publics. Et donc, ça se fait cette année à Laeken et à Molenbeek, au mois d'octobre. Et c'est dans l'idée, effectivement, de faire vivre le festival hors les murs et d'aller vers des publics qui sont moins sensibilisés, moins convaincus. Mm-hmm. Donc voilà, c'est intéressant de toucher d'autres publics et de réinventer un peu le festival. Mais effectivement, du 13 au 17 septembre, c'est au Cinéma Galerie et dans cette ville de Wallonie.
Okay. Et on a déjà évoqué la journée, la soirée d'ouverture, donc il y a la projection du documentaire d'Elisa Lévy, Composer les mondes, avec le débat, avec Vinciane Després, Émile Frison et Elisa Lévy, la réalisatrice. Et il y a un concert après ça aussi, parce que c'est aussi, la fête.
Aussi, oui, absolument.
Est-ce qu'il y a d'autres événements à pointer qu'on pourrait...
Il y a le forum aussi, qui est un moment assez attendu. Le forum qui traitera cette année des questions de relocalisation et comment ces enjeux-là peuvent être récupérés par l'extrême droite. C'est des sujets qui nous préoccupent beaucoup en France, en Belgique et dans d'autres pays. Comment on peut repenser les circuits courts, la relocalisation, etc. Mais tout en solidarité et pas dans le protectionnisme et dans le repli sur soi comme on peut entendre dans certains discours politiques. Donc voilà, ça c'est aussi un moment intéressant. Il y a cette année aussi, on avait envie de... Parce que le festival, c'est surtout des documentaires, mais on avait aussi envie d'ouvrir à la fiction. Et on a noué un partenariat avec le BIF. Et on leur a donné carte blanche, le festival du film fantastique. Et donc, ça sera comique de voir la proposition du BIF. Donc, ils nous proposent des courts-métrages, des séances de courts-métrages. Des films sur les enjeux d'alimentation, d'agriculture, mais dans des genres tout à fait différents, des films d'horreur, fantastiques, etc., sur le cannibalisme et autres. Et alors, on reprogramme le film Soleil Vert, qui est un film des années 70, et qui se passe en 2022. Donc, c'est intéressant de revoir ces films. Et ce sera l'occasion pour nous de débattre sur les enjeux de l'avenir des systèmes alimentaires. Quels sont un petit travail de prospection et de voir, essayer de se projeter dans les années 50. Ça sera le dernier jour, le samedi 7 septembre, et qui se terminera, le festival se clôturera aussi par un concert DJ Mokona.
Nous fait suite. C'est pour ça qu'on doit terminer à 9h. C'est parce que c'est lui qui prend l'antenne pour Radio Mukambo juste après. Et donc, si on veut se procurer les tickets, si on veut plus d'informations, est-ce qu'il faut réserver à l'avance? Est-ce que tout est déjà complet?
C'est mieux de réserver à l'avance. Sinon, tout est sur le site festivalalimentaire.be. Sinon, on peut effectivement toujours venir le jour même sur place aussi. Mais c'est toujours mieux de réserver en ligne. Tout est sur le site festivalalimentaire.be.
Ok, eh bien, on n'a pas tout dit, évidemment, on n'a pas tout dit, mais donc on vous invite à aller sur le site et à consulter l'entièreté du programme, que ce soit pour les documentaires et les moments festifs ou les rencontres débats. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues, Alessandra et Julie de Grand Matin, comme ça. Et longue vie au festival alimentaire. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, mardi prochain, donc François de Saint-Georges sera accueilli dans la matinale du mardi par Pierre et Julien pour parler Mais j'imagine qu'il évoquera encore quelques aspects plus particulièrement de son film, mais de cette campagne qui sera lancée donc autour des pesticides. Merci beaucoup. Et nous, on va terminer hein, bientôt cette matinale. Et tout à l'heure, je vous disais que c'était la fête nationale au Brésil aujourd'hui. Ça fait 200 ans qu'ils ont acquis l'indépendance. C'était en 1822. Et donc pour ça, je vous propose d'écouter Elsa Soares avec Libertação. Voilà.
C'est une bonne idée. Je vais faire comme toi.
Largou.